Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et encore une belle soirée hier au Printemps de Bourges avec notamment Jen Vianney, une création autour du répertoire de Barbara. On rejoint Steven Bellery sur place dans un instant. La télévision en couleur à 50 ans pour fêter cet anniversaire. France 2 proposera samedi soir une émission spéciale présentée par Michel Drucker et Thomas Touroud. Ils sont pour la première fois réunis en tandem. Isabelle Morini-Bosque les a rencontrés. Laurent Marcy qui a lui assisté au casting des Prodiges qui auront la chance d'être sélectionnés pour la nouvelle édition de l'émission de France 2. À suivre un florilège de jeunes talents. Et puis nous nous promènerons avec Monique Younes. Les jardins sous toutes leurs formes sont au cœur de plusieurs expositions en ce moment, au Centre Pompidou à Metz, à Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher, ou encore au Grand Palais et à Orsay à Paris. Moi j'aime beaucoup me balader avec Monique.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
J'aime bien aussi me balader avec Steven à Bourges, vous voyez.
J'espère.
Mais bien sûr, ou avec vous, Isabelle, aussi. Dans les rues de Paris. Alors, pour sa troisième soirée, cher Steven, bonjour.
Bonjour à tous.
Le printemps a décidé de célébrer la mémoire de Barbara. La chanteuse est morte il y a 20 ans cette année, Steven. Vous avez assisté hier à la création originale du festival intitulée « Mes hommes ».
Oui, une soirée inédite et unique imaginée par le pianiste classique Alexandre Tarot. Il avait convié 7 chanteurs, uniquement des hommes, pour rendre hommage au répertoire de l'une des plus grandes interprètes françaises. Des raretés se sont entremêlées à des morceaux immortels. Dominica avait choisi.
Dis, quand reviendras-tu ? Dis. Au moins le statut que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Quelques ampoules colorées, l'accordéon de Roland Romanelli, complice de Barbara pendant 20 ans, un violoncelle, quelques notes de guitare, l'écran est acoustique, épuré. Alexandre Tarot voulait une soirée intime, comme si un groupe d'amis se retrouvait autour de son piano. Sa passion pour Barbara remonte à l'adolescence, confidence du pianiste.
J'étais au conservatoire national et c'était une période très difficile parce qu'au conservatoire, il faut vraiment travailler, il y a la compétition. Enfin, on découvre une école à la dure. Et je suis devenu insomniaque. L'insomnie, ça donne de la place. En découvrant l'insomnie, j'ai découvert Barbara de manière très profonde parce que j'étais là dans mon lit, j'avais mon petit Walkman, vous savez, à l'époque on avait les cassettes. Puis ensuite je l'ai découvert sur scène et là ça a été vraiment un coup de foudre et puis une grande leçon pour l'apprenti artiste que j'étais.
On sent à quel point le musicien a digéré toute l'œuvre de Barbara. Tarot a cette formule sur scène. Barbara, c'est joyeux mais les larmes dans les yeux. L'émotion sera palpable pendant 1h45, notamment grâce à Team Dup. Souvenez-vous, il ouvrait Bourges mardi et chantait Pierre hier.
Sur la campagne endormie, le silence et puis un cri. Ce n'est rien, un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glissent jusqu'à moi sans bruit.
Vincent Delerme, impeccable, enchaîne Mon enfance et Gare de Lyon, Albin de la Simone, tout en délicatesse étonne sur Joyeux Noël ou C'est trop tard, rencontre croisée en coulisses.
Honnêtement, dans le rapport importance comme chanteuse et comme temps d'écoute, c'est le rapport le plus étonnant que j'ai. J'écoute très très peu Barbara par rapport à ce que je l'aime, mais juste parce que ça me fait trop d'effet.
J'ai découvert Barbara très tard, jouée par Alexandre Tarot et chantée par Dominica au Théâtre du Châtelet il y a 10 ans. Je connaissais déjà Alexandre depuis longtemps et Alexandre me parlait de Barbara, mais moi j'étais musicien de jazz pendant très longtemps et donc Barbara me passait très loin des oreilles et ça a été la porte d'entrée pour écouter Barbara.
Et puis un invité surprise est arrivé en fin de soirée, Steven. Il lui avait chanté avec Barbara.
Oui, c'est Julien Clerc. Il n'était pas annoncé au programme. Pourtant, il a magnifié la soirée. Il a signé la plus jolie reprise hier soir, à mon sens.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes. Du plus loin du premier rendez-vous.
J'ai énormément travaillé moi, pour cette chanson parce que pour moi, c'est comme de la musique classique, Barbara, c'est-à-dire qu'il faut absolument respecter la moindre note de la mélodie, qui sont des mélodies extrêmement précises. Elle faisait partie des chanteurs que ma mère adorait. Bon, le premier d'entre eux, c'était Brassens. Mais j'ai découvert très 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 jeune la mélodie à travers ces deux personnes. Ça peut vous sembler très très bizarre, mais Brassens, qui est un immense mélodiste pour moi, et elle, c'était pareil. Donc c'est les premiers disques que je me suis acheté. J'écoutais ça en faisant mes devoirs. J'ai fait juste un duo un jour à la télé qui reste comme un grand souvenir de duo. On faisait chacun notre tour une chanson de l'autre. Et c'est moi qui étais au piano, ce qui est incroyable. Elle chantait quelques chansons de moi en ne respectant pas toujours tout à fait le texte. Elle avait juste un peu changé une ou deux paroles qu'elle avait mis un peu à sa façon. Un super souvenir. Et puis je l'avais rencontrée en dehors. Des trucs un peu intimes, malheureusement, qui ne m'appartient pas de raconter ici. Mais toujours une impression quand même d'humour. Moi, c'est ce souvenir-là que j'ai.
J'avais fini mon voyage. Et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire. C'est vous.
À quel moment de grâce, Julien Clerc. Alexandre Tarot prépare actuellement un album hommage. Vanessa Paradis, Camélia Jordana ou Jane Birkin y chanteront Barbara.
Alors vous avez fait aussi un détour hier après-midi par le palais Jacques-Cœur. Delphine de Vigan et la Grande Sophie ont donné deux représentations de leur spectacle, l'une et l'autre, Steven.
Oui, l'une a écrit 7 romans, l'autre a enregistré 7 albums. Les chemins des deux artistes se sont croisés en 2014. La création devait être unique. Elle s'est pérennisée, l'une et l'autre est un spectacle hybride, ni un concert, ni une lecture, un peu des deux, beaucoup de poésie au final, ça ressemble à ça.
C'est drôle. Mais bien souvent j'ai pensé à ça. J'aurais pu changer de rôle, aussi souvent que je changeais de pièce, d'envie ou d'état. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent, quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça suffit ?
Debout dans une salle plongée dans l'obscurité, les deux femmes mélangent leurs univers pendant 1h10. La Grande Sophie chante, Delphine de Vigan lit, la vie pour fil rouge, l'enfance, l'adolescence, l'amour, la désillusion et le désamour. Les deux artistes se promèneront partout en France jusqu'au mois de novembre.
C'est comme ça que je vois les choses dans la tête des autres. C'est peut-être plus marrant parfois.
La soirée s'est poursuivie avec deux jeunes artistes de valeur montante, en l'occurrence Vianney et Jane.
Et le grand chapiteau était archi complet. Hier soir, Jane y chantait déjà l'an dernier. Elle a mis le feu avec sa world pop. Mais une fois de plus, c'est Vianney qui m'a bluffé. Il a retourné le public seul sur scène.
Si moi et toi blessez-moi, si moi et toi.
Je vous avais dit le mois dernier tout le bien que je pense de son nouveau tour de chant, un grand 8 émotionnel. Faut vraiment le voir pour comprendre ce qu'on vit pendant un concert de Vianney. Il s'attaque au Zénith cet automne et chantera à Paris-Bercy le 9 juin 2018. Il sera alors le premier artiste français à y chanter tout seul avec sa guitare.
Merci beaucoup Steven Bellery. Le Printemps de Bourges continue tout le week-end avec notamment votre chouchou Juliette Armanet, ben oui, ou Lady Sear, dont vous nous parliez la semaine dernière. Si je me souviens
exactement
bien.
Exactement, bonne mémoire.
Allez, bon week-end à vous.
À vous aussi.
On passe maintenant à notre soirée télévisée et aux audiences, avec évidemment une curiosité toute particulière sur ce qui s'est joué à France 2. Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien, c'est justement l'émission politique sur les présidentielles qui est en tête sur France 2, mais ce n'est pas un record d'audience, puisque 4 700 000 personnes environ étaient devant la 2. 22% du public, c'est quand même supérieur à la moyenne de la case.
Je rappelle les chiffres que vous m'aviez donnés hier. L'émission de BFM et CNews avait fait 6 300 000 à 11 candidats.
Tout
et
à
celle
fait.
De TF1 avait fait 11,5 millions à 5.
Voilà, donc apparemment, il y en avait qui s'en fichaient ou qui n'étaient pas encore indécis, oui, voilà.
Mais c'est pas mal, ils sont en tête.
Tout à fait. Et c'est suivi par TF1, une rediffusion. 3 600 000 personnes ont vu la fiction On se retrouvera, 15% du public. Et en troisième position, Scorpion. 2 800 000 personnes étaient sur la série d'M6 et 11% du public côté TNT. Ça surprendra qui ? C'est le football sur W9 qui est alors vraiment très, très largement en tête. C'est un de leurs records d'audience. C'était le match, comment vous dites, Besiktas ?
Besiktas.
Besiktas. Alsace, Lyon, 2 220 000 téléspectateurs. Je me contente toujours du sport.
Oui, jeune homme, vous êtes toujours très en pointe sur le sport. Du sport, il en sera encore question, d'une certaine façon, avec Thalassa et le départ de Georges Pernoud. Tout cela nous sera au menu de Charlotte dans quelques instants avec nos express.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Alors nous l'avons appris ce matin, le présentateur Georges Pernoud quitte Thalassa, diffusé sur France 3 depuis 1975.
Oui, le créateur de l'émission parle de son départ dans un entretien exclusif à Télémagazine. À la question « Comment voyez-vous l'avenir ?», Georges Pernoud répond « Après le mois d'août, Thalassa continuera sans moi ». Puis il ajoute « Depuis la nouvelle programmation décidée par Dana Astier, l'émission est devenue un bouche-trou. Ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m'en mêler », dit-il. Il précise par ailleurs qu'il a d'autres projets de télévision. « Vous m'y reverrez », lance-t-il.
Le nouvel album du groupe Texas, Jump on Board, sort aujourd'hui et on va vous le faire découvrir toute la journée sur notre antenne.
Oui, avant l'interview mardi prochain, ici même dans Laissez-vous tenter, de Charlène Spiteri, la chanteuse du groupe au micro de Stephen Bellery. On va entendre des nouveaux titres des Écossais dans chacune des émissions de la journée sur RTL. Et en voici un extrait dès ce matin. Cette nouvelle chanson s'appelle For Everything. For everything you had read, it wasn't all. Des nouveaux titres de l'album de Texas qui sort aujourd'hui. Notez que le groupe sera demain à 15h l'invité du grand studio RTL. Leur tournée en France démarrera le 4 novembre prochain à Roubaix dans le Nord.
Et que tous les auditeurs qui interviennent aujourd'hui sur l'antenne d'RTL au 3210 gagnent l'album que nous leur offrons. Jour de fête demain samedi dans les librairies.
Avec la 19e édition de la fête des librairies indépendantes, près de 500 d'entre elles y participeront en organisant des animations, des rencontres, des dédicaces et comme chaque année seront offerts aux clients de passage une rose et un livre spécialement édité pour cette journée par Actes Sud. La liste des librairies associées à l'opération de demain est à consulter sur la page Facebook de la fête de la librairie indépendante.
Michel Denisot, un nouveau projet est de taille.
Ancien dirigeant du PSG, ex-animateur du Grand Journal sur Canal+, actuel directeur de la rédaction du magazine Vanity Fair, Michel Denisot se lance pour la première fois dans le cinéma. Pour RTL ce matin, il nous en dit plus.
Je pense que j'aurai tout fini l'écriture au mois de juin. J'ai signé un contrat avec UGC. Comme j'en ai jamais fait, je veux tout faire en étant entouré évidemment de gens qui savent faire. Et puis je réaliserai. L'objectif, c'est de tourner à la fin de l'année. Voilà. C'est une histoire, pour résumer, d'un journaliste qui présente le 20h en 2001 par accident. Il ne devait pas le faire et puis il remplace la vedette qui n'est pas là. Il devient une star. Et les gens l'adorent, il bat tous les records d'audience comme on n'a jamais vu. Et les gens pensent que c'est un type formidable, et en fait, pas du tout. Voilà, et je ne vais pas vous raconter la suite. Je n'ai pas inventé grand-chose, je ne vise personne. Chaque personnage du film est un mélange de 15 personnes, plus un peu d'imagination, donc ça fait un peu des monstres.
Michel Denisot qui réalisera et écrira donc ce film. Il était à votre micro pour Isabelle Morini-Bosque.
Oui, c'est bien Isabelle Morini-Bosque, moi j'en atteste.
Qui n'en reste.
Oui. Alors, eh ben, écoutez, Michel Denisot, on va le retrouver bien entendu sur Canal+, à l'occasion du 70e Festival de Cannes.
Canal+, qui a présenté hier son dispositif pour cet anniversaire qui se déroulera du 17 au 28 mai prochain. Canal+ Cinéma sera rebaptisé Canal+ Cannes pour l'occasion. Les grandes chaînes du groupe diffuseront pas moins de 70 films pendant la quinzaine, avec chaque soir une palme d'or, Pulp Fiction, La leçon de piano, Le pianiste ou encore Le vent se lève.
Des films exceptionnels.
Vous retrouverez aussi chaque soir les sketchs de Catherine et Liliane, sans oublier bien sûr Les Guignols, avec à la présentation l'actrice Monica Bellucci.
Je suis des Canal+, moi. Alors, on connaît le sujet du prochain film dirigé par Clint Eastwood.
Le 15h17 pour Paris racontera une histoire vraie, celle de ces GIs américains et anonymes qui ont évité un massacre dans le Thalys Amsterdam-Paris. C'était à l'été 2015. Ces héros avaient réussi à maîtriser un terroriste armé.
Il y a un an, jour pour jour, Prince disparaissait. Un an après, la justice bloque la sortie d'un mini-album posthume, mes enfants.
Oui, album qui devait s'appeler Deliverance et qui devait sortir à l'occasion du premier anniversaire de la mort du chanteur le 21 avril 2016. Il y avait 6 chansons enregistrées entre 2006 et 2008 que Prince avait écartées ou qu'il n'avait pas terminées. C'est son ingénieur du son, Ian Boxhill, qui s'était chargé d'achever, d'arranger et de mixer les titres. Sauf que voilà, les héritiers de Prince ont déposé un recours contre lui, l'accusant notamment de vol et de détournement.
Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous danser. Alors, on va parler de notre soirée télévisée, hein, vous êtes là pour ça?
Oui.
Je voulais vérifier. Et nous signalons demain sur la 3 un excellent polar, Les Brumes du Souvenir.
Oui, un polar qui se déroule à Verdun. On cherche le meurtrier d'un élu local. C'est haletant. La petite histoire rejoint la grande. Ça vaut doublement le coup d'en faire toute une histoire. Vous verrez.
En face, sur France 2, il y a une spéciale destinée à fêter les 50 ans de la télévision couleur en France. Ça,
oui,
j'adore.
2h20 d'extraits qui ont marqué l'histoire de la télévision en thème, le direct, les directifs, le sport, les loupés, etc. Avec des invités, Karine Le Marchand, Laurent Gérard, Cyril Lignac, Michel Simès, Marc-Olivier Fogiel. C'est présenté par Thomas Toureau et Michel Drucker et ça commence comme ça.
Alors écoute-moi bien, Michel, tout va bien se passer. Rassure-toi, tout va bien se passer.
T'es sûr?
Ah oui, il n'y a pas de raison, voyons.
Enfin, on ne l'a jamais demandé jusqu'à maintenant, il y a peut-être des raisons.
Il n'y a pas de raison, c'est parce qu'ils n'ont jamais pensé à te faire présenter un prime time à la télé, c'est tout, sinon tu penses...
Je précise que Michel Drucker a près de 5000 séquences signalées à l'INA. Alors, quand j'ai rencontré Michel Drucker, j'étais accompagné par Ronan Coquelin, un jeune journaliste en stage à RTL, et avant que nous ayons dit un seul mot, Michel racontait déjà.
C'était en 67 les débuts. C'était Monsieur Gors, ministre de l'Information, qui, avec un visage sinistre en noir et blanc, avait dit « Et maintenant, la couleur !» C'est surréaliste. Bah, j'étais là, mais j'étais là avant la couleur. Hein. J'étais presque là avec les frères Lumière.
Oh, il a une place à part, il le sait, il le raconte lui-même.
Il y a deux jeunes filles qui me rencontrent à la gare de Lyon, qui montent dans le TGV. Elles s'assoient devant moi et sur le magazine de la SNCF, il y avait une photo de Chavannes. Il y en a une qui dit à d'autres, « Oh, dis donc, de Chavannes, c'est toute notre jeunesse. » Je dis, « Oh là là, si de Chavannes, c'est toute leur jeunesse, moi, c'est les frères Lumière. » Le train arrive à Avignon, elle me demande un selfie avant de partir. Je leur dis, « Écoutez, je peux tout entendre. J'ai assez d'humour pour ça. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure, en regardant de Chavannes, que c'est toute votre jeunesse? Parce que si c'est toute votre jeunesse, alors moi, dis donc, oh là là. » Elle me dit, « Non. Vous, c'est pas pareil. Vous, vous avez pas d'âge, monsieur Drucker. Vous avez été vendu avec le poste. » J'ai trouvé ça magnifique comme formule. Et c'est la dernière phrase de mon spectacle. Et je dis, eh ben j'y retourne dans mon poste.
C'est ça. Avec Thierry Ardisson et Philippe Gildas, il est la seule mémoire de la télé présente sur le plateau. En sont absents, il faut le reconnaître, Nagui, Christophe Dechavanne, Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, Benjamin Castaldi, présents en images mais absents sur le plateau. Certains ont été oubliés, d'autres pas invités, les troisièmes n'ont pas voulu venir. Thomas Toureau, lui, loin des querelles de couloir, est content de co-présenter.
C'est surtout Michel Drucker qui présente et j'accompagne Michel Drucker. Restons à sa place. Quand le projet est chouette et qu'il est ambitieux, j'accepte souvent assez rapidement. Là, j'ai accepté très vite. Puis c'était l'occasion pour moi de travailler avec Michel Drucker pour la première fois et puis aussi de travailler avec la boîte de production d'Arthur.
Est-ce que vous avez senti que l'émission était sur des mauvais rails au départ? C'est-à-dire qu'il a fallu expliquer que c'était pas l'histoire de la télévision et expliquer pourquoi on n'y verrait pas tous les grands éléphants qu'on s'attendait peut-être à y voir.
Des mauvais rails, je dirais pas ça. En tout cas, on le dit nous-mêmes qu'effectivement, on peut pas revenir sur 50 ans de télé, de rire et d'émotion avec un choix exhaustif. C'est totalement impossible. Il aurait fallu faire 4 heures, 5 heures, 6 heures d'émission, voire plusieurs jours. Si cette émission marche bien, j'espère qu'il y en aura, d'autres, ça c'est sûr.
Michel Drucker le confirme, ce sont des moments de télé, pas l'histoire de la télé.
Non, c'était les 50 ans de la télévision couleur. Et à cette occasion, on a dit, tiens, on va regarder ce qui nous a fait le plus rire et le plus ému. C'est 50 ans de rire et d'émotion à travers des documents que j'ignorais. Il y a des trésors à l'INA, des espèces de gigantesques bêtisiers et une gigantesque enfant de la télé. C'est pas par hasard si c'est Arthur le producteur.
Et les enfants de la télé, justement, ils vont revoir des classiques, notamment Yves, le fou rire sur la proute.
Et c'est quoi la proute?
La proute, c'est une rivière moldave, mais c'est surtout un mémorable fou rire de la télé. Un journaliste aux très beaux yeux bleu clair annonce très gravement des inondations mortelles en Moldavie et...
Le niveau de la rivière, la proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures.
C'est un ami.
À l'approche de l'Open American, dont il fut l'année dernière finaliste.
Voilà, c'est un ami à vous.
Bah, on travaillait à LCI ensemble, c'était la première année de LCI.
Ah, mais ça fait ma joie.
Je peux vous dire que oui, il s'est fait drôlement gueuler.
Alors, on va évidemment, le pauvre, on va évidemment revoir Serge Gainsbourg voulant baiser, entre guillemets, Whitney Houston, Balavoine face à Mitterrand, et bien sûr, top 5 du public, le journaliste Ladislas De Hoyos en plein tournage nocturne.
Ouais, la caméra. Je sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Voilà, tu le mets derrière le truc comme ça.
Et puis-je t'opérer avec mon trou du cul par hasard?
Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra.
Je veux que ça me foute, moi.
Bon, allez, tiens.
Et voilà.
Ça fait 2700 fois que j'entends.
Voilà, absolument.
Ça dit tellement la télévision.
Et c'est le top 5 des plus jeunes. Et on termine à tout seigneur, tout honneur par Michel Drucker, tout surpris.
Je suis le premier surpris, sans coquetterie aucune, d'être là depuis 53 ans. Le premier qui s'étonne de son exceptionnelle longévité, c'est moi. C'est ma 15e présidente de France Télévisions, 15e présidente. J'attends mon 8e président de la République. Je réfléchis à ce que je vais faire parce que Vivement Dimanche n'existe plus. Il y a eu beaucoup de changements sur France 2. J'ai encore envie d'aventure. La date de préemption n'est pas arrivée. Je m'interroge parce que j'ai changé, moi, depuis que je suis sur scène. Donc c'est l'artiste qui réfléchit à son avenir à la télévision plus que l'animateur, parce que l'animateur, il a fait le tour depuis longtemps de son métier.
Il paraît qu'on songerait à lui de nouveau pour le dimanche après-midi. Tout ça pour ça.
Merci beaucoup pour ce point sur notre télévision. Alors, télévision toujours, hein, c'est un rendez-vous qu'on aime beaucoup. Chaque fin d'année, France 2 fait monter sur scène des petits virtuoses de la musique classique. C'est l'émission Prodige, elle est présentée par Marianne James. Les castings viennent tout juste de débuter. Et évidemment, Laurent Marcy, que vous y avez assisté.
À Pantin, un premier jour de casting. Au total, 110 enfants vont défiler sous les yeux d'un jury. Alors, de professionnels, hein, ce ne sont pas ceux qu'on voit dans l'émission, ce sont des représentants de France 2. Il y a le producteur, Shine, et puis des professionnels de la musique et de la danse. Voici Maxime, 10 ans et demi, qui s'avance.
Tes parents sont musiciens ?
Non, ils y comprennent rien. Ah,
rien. Ben, nous, on aime bien quand même quand Maxime prend son violoncelle. Oui. Dans le jury, des regards entendus se croisent. Voici maintenant Marina, 12 ans, pianiste, 4 ans de piano seulement derrière elle.
Surdoué.
J'étais scotché, alors du coup, à la sortie, je suis allé la voir et puis je lui ai dit « c'était génial », elle m'a répondu.
Ça peut être mieux quand même. Du lundi au vendredi, je fais une heure et le week-end, de 5 heures.
15 heures de piano par semaine, incroyable. En fait, ce sont des bourreaux de travail, tous ces gamins.
Alors justement, vous faites bien de le faire remarquer, parce que comme l'explique le producteur Nicolas Missoff, un prodige, c'est d'abord un enfant qui ne fait pas que ça.
Il faut que ce soit quelqu'un d'ouvert d'esprit, qu'il ne soit pas derrière son instrument 5 heures par jour à ne faire que ça. C'est un enfant normal et qui a des capacités musicales de très très haut niveau.
Très haut niveau comme cette jeune fille de 13 ans, elle, c'est le chant. Bon, j'avoue que le Ave Maria, ils l'ont fait quasiment tous, donc au bout d'un moment, on s'en lasse. Puis on réinstalle le piano. Marie, 12 ans, qui rêve pour son futur.
Je devais faire un métier dans la musique. Je pense que je serai compositrice.
En attendant, c'est sur le clavier que ses doigts virevoltent.
Prodige donc, les castings, diffusion fin d'année et entre les deux, un concert.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler. France 2 diffusera le 2 juin un grand concert en direct de Lille avec 10 000 choristes sur scène. Ils nous présentent ça la semaine prochaine, mercredi prochain. On en saura
bien compris. L'Ave Maria, alors allez, c'est...
Non, c'est bien.
C'est rasoir, hein. Ouh là là. Merci beaucoup, Laurent Marcic. Dans quelques instants, on va se promener avec Monique Younes. Auparavant, retour de l'information, juste pour vous dire que l'homme qui avait été signalé à la France par la Belgique ce matin s'est présenté dans un commissariat d'Anvers, c'est tout à fait officiel, la dépêche nous provient de Belgique. Homme signalé à la France par la Belgique, il s'est présenté dans un commissariat.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Monique Younes.
Oui.
À 2 jours du premier tour des élections présidentielles, vous nous faites changer d'air. Vous nous emmenez dans un lieu qui ne semble pas être un enjeu électoral et qui pourrait pourtant réunir tous les Français. J'ai nommé les jardins, The Gardens en anglais.
Yes.
Le Grand Palais propose une exposition exceptionnelle sur les jardins et leur représentation par les artistes.
Jardins poétiques, jardins érotiques, écologiques ou mystiques. Tous les jardins, sauf les jardins de l'Élysée, c'est promis. Le jardin, disait Michel Foucault, c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde. Voilà sans doute pourquoi les artistes de l'Antiquité à nos jours ont représenté les jardins en peinture, en sculpture, en cire, en maquette, en trompe-l'œil, au cinéma, au théâtre, en bijoux, en chapeau. Ils ont même peint 18 miniatures sur des boutons de redingote représentant les 18 vues des jardins de Versailles. Tout cela se trouve au Grand Palais à Paris dans le cadre d'une exposition sobrement intitulée « Jardin » au pluriel et que l'on doit à Laurent Lebon.
Eh ben c'est le président du musée Picasso.
Lui-même, il a d'ailleurs placé un Picasso dans son exposition. Mais Laurent Lebon, voilà, et hop, s'intéresse, Laurent Lebon, il s'intéresse depuis longtemps aux jardins de toutes les manières, savantes ou anecdotiques. Il a monté d'ailleurs une exposition sur les nains de jardin. C'est vous dire. Alors au Grand Palais, ce qu'il propose est beaucoup plus sérieux et tout à fait étourdissant, enivrant. C'est une promenade, évidemment, et bucolique, espacio-temporelle, à travers quelques 300 œuvres, dont une cinquantaine exposées pour la première fois en France. Alors l'expérience est quasi olfactive, tellement
Les fleurs, les herbes, la terre, les mousses sont présents, sans parler des animaux et des jardiniers auxquels le peintre Émile Claus rend un hommage bouleversant. Comme il l'est dit à un certain moment dans l'exposition, la première chose à faire pour avoir un beau jardin, c'est de prendre un jardinier.
Ah bah oui.
Mais oui, parce qu'il y a aussi des textes dans cette exposition qui racontent, qui apprennent et qui surprennent. Par exemple, j'ai été étonnée d'apprendre par Laurent Lebon qu'un des herbiers exposés est une œuvre de Paul Klee.
On voulait surprendre le visiteur en lui offrant la même magie que la promenade dans un jardin, avec ses surprises, ses découvertes, ses allées, ses bosquets. Klee, on le connaît avec ses aquarelles, bah on sait moins qu'il a aussi mis autant d'énergie à collectionner des plantes, à en faire des compositions, et qu'au fond, elles ont aussi statut d'œuvre d'art. Et on montre pour la première fois cet herbier.
Alors Laurent Lebon a rassemblé quelques chefs-d'œuvre. Je pense à cette aquarelle de Durer qui nargue un dessin de l'artiste contemporain Giuseppe Pennone, à cette fresque de Pompéi qui répond à un tableau de Dubuffet. Et puis il y a des œuvres qui ne dialoguent avec aucune autre, comme ces sublimissimes fleurs en verre de Léopold de Blaschka. Fragonard aussi s'invite à la fête avec la douceur du jardin de Saint-Cloud. Oui. Des stars, certes, mais rassemblées autour d'un thème à la fois universel et rarement exploré.
Nous ne voulions que des chefs-d'œuvre moins connus, comme avec Coste, qui était le peintre préféré de Van Gogh, qui, je crois, est une des petites révélations de l'exposition. On est sur un temps assez ramassé, d'une soixantaine d'années, au final. C'est pas un hasard si on est à la fin du 19e, au début du 20e siècle, au début de cette séquence, parce que c'est le moment, évidemment, où le jardin triomphe dans la représentation, justement, où on ne le domine plus, mais où il devient élément lui-même de composition. On peut penser, bien sûr, à la magie impressionniste.
Alors, Laurent Lebon, que vous venez d'entendre, nous fait remarquer aussi dans la dernière partie de l'exposition que les œuvres ultimes de Villard, de Cézanne et de Matisse sont des jardins, comme si arrivés au bout de leur histoire, ils avaient senti le besoin de se rapprocher du jardin éternel. Enfin, c'est une théorie.
Mais en tout cas, pour Matisse, c'est ses extraordinaires gouaches découpées. Matisse est dans une difficulté de se déplacer. Il guide ses assistants pour créer ce qu'il appelle lui-même son petit jardin. Et donc, on a voulu dans l'exposition lui faire une sorte de moment de sérénité pour voir en majesté ce collage extraordinaire, comme il l'avait lui-même dans sa chambre à Nice, pour montrer tout simplement que la nature pouvait encore l'émerveiller.
Bon, alors vous avez fait des trouvailles au milieu de cette luxuriante exposition.
J'ai adoré les iris de Patrick Neus. Ce sont des aquarelles qui représentent des iris. On ne peut pas faire plus simple, plus intemporel, plus minimaliste. Et vous resterez sous le choc de cette pureté suspendue dans le temps. Mais pour les amateurs d'art contemporain, il faut aller à Metz, à l'exposition Jardins infinis du Centre Pompidou-Metz. Là, l'actualité reprend ses droits, de la déforestation amazonienne aux jardins artifices marocains, en passant par le travail de Pierre Huyghe, intitulé « Le Nymphéa transplante ». C'est un aquarium dans lequel se trouve un condensé de l'eau du jardin de Giverny. Une œuvre politique, m'a dit Emma Lavigne, la directrice du Centre Pompidou-Metz.
Giverny a été évidemment ce décor extraordinaire pour servir d'un modèle pour les fameux nymphéas, mais ça a été aussi un combat. Monet a dû faire intervenir même Clémenceau parce que la constitution même de ce jardin était politique. Les fermiers alentours étaient très inquiets de voir ces plantes exotiques, donc de facto toxiques, arriver à proximité de leurs prairies et pensaient que ces plantes allaient empoisonner le bétail.
Bon, alors si on a envie de visiter un vrai jardin, on va où ?
Eh bien, au domaine de Chaumont-sur-Loire, qui a inauguré hier son 26e Festival international des jardins. Le thème cette année, c'est le Flower Power. Et là, c'est une débauche de fleurs jamais vues, rarissimes par leur forme, leur couleur et leur parfum. Un festin de fantaisie, d'audace et d'émerveillement, bien loin des 11 plantes bavardes qui ont cherché à obtenir nos faveurs de lecteurs hier soir.
Merci beaucoup, Monique Younès. Dans un instant, Julien Courbet est avec nous. 9h31, merci à toute l'équipe, merci à vous d'écouter RTL et vous retrouvez tout de suite Julien Courbet.
Bonjour Monsieur Calvi, tout va bien ?
Tout va bien, je vous remercie.
Bon, eh bien écoutez, on va attaquer.
Et vous, ça va mieux ?
La nuit a été courte.
Bien compris.
Je ne cache pas que je n'ai pas bien dormi, mais voilà, on est là, tant mieux, et on pense surtout qu'on a eu de la chance par rapport à d'autres. Merci beaucoup,
Bonne
Yves.
Émission.
Bonne émission.
Vous écoutez RTL.